en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La Fondation Croissance Responsable a tenu son premier forum le jeudi 9 décembre 2010 dans l'hôtel de la Fondation Del Duca. Encadré par Michel Albert de l'Académie des sciences morales et politiques et par le chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, cette réflexion a conduit de nombreuses personnalités du monde économique et social à s'exprimer sur l'essence du capitalisme et sur son évolution envisageable. Prenant conscience des raisons de la crise économique de 2009, ce colloque invite à reprendre confiance en l'entreprise et en l'initiative. Aux côtés de Michel Albert, vous retrouverez Xavier Fontanet, président d'Essilor, Alain Mérieux, PDG de Biomérieux, Arnaud Moureau, directeur général d'Ashoka France, Alain Olive, secrétaire général de l'UNSA, Denis Père, entrepreneur français et fondateur de Kiala, et Nicole Nota, PDG de Vigeo. Écoutons l'entrée en matière de Michel Albert, qui présente les bouleversements du capitalisme suite à la crise économique venue des États-Unis d'Amérique.
Il y a une vingtaine d'années, en 1991, j'ai en quelque sorte baptisé le modèle rhénan dans un livre intitulé « Capitalisme contre capitalisme ». Et je prévoyais qu'il serait mis en échec par le modèle néo-américain. C'est bien ce qui s'est malheureusement passé dans une large mesure. Mais depuis la profonde crise de 2007-2008, qui est une crise venue d'Amérique et qui est une crise du modèle néo-américain, les choses sont en train de changer. Et alors que nous vivons encore au rythme des répliques du séisme de 2008, il ne faudrait pas qu'après la décennie des années 2000 qui a inventé le développement durable, la décennie 2010 nous impose le dérangement durable. Face à l'épreuve de la sortie de crise, nous observons deux attitudes. D'un côté, un bon nombre d'acteurs confortablement installés dans la certitude que les États ne laisseront jamais disparaître les grandes banques, recherchent le business as usual, mais d'un autre côté, il y a des signes d'une prise de conscience dans les entreprises. Une conviction se renforce. Certes, il faut de la croissance, mais celle-ci ne pourra pas être la même que 20 ou 30 ans dans le passé. Innovation dans les relations sociales au sein de l'entreprise, innovation dans la gouvernance, innovation dans la prise de décision sur tant de thèmes essentiels. Les entrepreneurs de plus en plus nombreux veulent donner du sens à leur action et, ce faisant, prendre part à l'invention du capitalisme futur. Ils ne se contentent pas de bonnes intentions. Ils savent que la crédibilité est l'enjeu majeur, mais aussi qu'elle est à portée de main. Ils savent en tout cas que la grande réflexion est engagée et ils sont décidés à ne pas laisser partir le train sans eux.
Xavier Fontanet, fort de ses expériences dans le monde de l'entreprise, apporte ici sa vision de la situation économique actuelle dans le monde et en France.
Écoutez, moi je vais surtout vous parler à partir de l'expérience essilorienne, qui est celle d'une entreprise qui a énormément grandi, qui n'était pas une très grosse entreprise, mais je pense que les choses les plus importantes, c'était toujours la volonté. Ça a été la volonté qui était plus importante que l'argent. Je crois que l'économie, on la présente beaucoup avec des équations, le travail et le capital. Moi, je crois que la NIAC est infiniment plus importante parce que je n'ai vécu que des entreprises petites au début qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais il y avait une telle volonté que finalement tout est venu. Et c'est un peu le sens de tout ce que j'ai voulu vous dire. Alors évidemment, l'entreprise est extrêmement mondiale, donc moi je vais vous parler de mon expérience. Je pense que le monde en fait connaît actuellement la croissance la plus forte qu'il n'a jamais connue depuis très longtemps. La raison, c'est très simple, c'est que vous avez maintenant trois grands mondes, qui est toute l'Amérique latine, la Chine et l'Inde. Il faut segmenter Chine et Inde parce que je pense qu'à une vingtaine d'années, le monde sera fait de trois pôles. Il y aura l'Inde, la Chine et l'Occident. Parce que les différences qui existent entre Amérique et Europe sont dérisoires par rapport à ce qui existe entre, mettons, Europe et Inde et Chine. Donc je pense que moi, je vois très très bien ce profil d'un pôle tripolaire. Et quand vous regardez objectivement ce qui se passe, ben, l'Inde, la Chine et l'Amérique latine, ça croît à peu près à 10%. L'Occident, c'est entre 0 et 2%. Ce qui fait que le total du monde croît à peu près à 3,5. Et ça va durer pendant extrêmement longtemps, parce que, alors sauf évidemment s'il y a un cataclysme militaire, parce qu'en fait, les populations chinoises et indiennes et Amérique latine, c'est encore fondamentalement des paysans. Donc il y a un réservoir de marché colossal. Au niveau des silos, on estime, vous voyez, pour donner un ordre de grandeur, qu'il y a à peu près 1 milliard de gens corrigés aujourd'hui. Il y a 5-6 milliards de personnes. Il y a 1 milliard qui est corrigé. Il est évident qu'à 15-20 ans, il y en aura 2,5 milliards, une fois que les systèmes de distribution ont le temps de se mettre en place. Et donc ça veut dire qu'on voit tous, enfin pour nous, on voit dans les 15-20 ans qui viennent une multiplication par 2 ou 3 en volume de notre marché. Et donc, évidemment, on est à l'aube d'une période de croissance. Alors, cette croissance va être extrêmement segmentée parce que je pense qu'on aura, dans les pays occidentaux, donc l'Europe et l'Amérique du Nord, on va avoir moins de croissance, mais on aura d'énormes transformations. Et je crois qu'il faut absolument se remettre à lire Schumpeter, enfin les grands économistes Schumpeter et Hayek. Schumpeter, parce que c'est vraiment la révolution, les changements de business model. Il y a énormément de technologies actuellement avec l'informatique, Internet, ça va bouleverser toutes nos économies de distribution et de communication. Et donc ça va créer des secteurs de très forte croissance. Mais forcément, ça créera des décroissances. Donc il faut que nos économies occidentales soient des économies de flexibilité. Il n'y aura pas beaucoup de croissance, mais énormément de changements. Et c'est pour ça que la confiance est capitale. Parce que ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que plus les gens sont en confiance, plus ils bougent. Dès qu'ils sont en défiance, ils sont figés. Et donc je pense qu'il faut vraiment expliquer le mécanisme ou le miracle ou le mystère de la confiance. Parce que c'est ça qui, de ça que va dépendre la prospérité des économies développées. Les économies en voie de développement, bon, ils ont une croissance phénoménale devant eux. Il y aura des soubresauts parce qu'il y aura des problèmes des bulles financières, mais il y a des croissances, il y a au moins 15-20 ans de croissance sur des économies gigantesques. Hein. C'est la Chine aujourd'hui, je veux dire, c'est aussi gros que les US. Parce que moi je voyage tout le temps, là je reviens de... Quand vous les survolez... Vous voyez bien, le volume est là. Hein. Alors, il se trouve que dans les chiffres portés sont plus bas pour deux raisons très simples. C'est que les monnaies sont sous-évaluées, on le sait. Hein. Bon, de combien? Mais c'est sûrement au moins d'un à deux. Et puis, toute l'économie n'est pas encore financiarisée. Peut-être la moitié de l'économie est encore un peu au noir, disons-le. Donc, la réalité de l'économie chinoise, c'est quatre fois ce qu'on voit dans les chiffres. Et si vous quadruplez, vous êtes au-dessus des US. Bon, alors, vous avez donc déjà une économie gigantesque qui a évidemment 15 ans de croissance parce que vous avez encore 90% ou 80% des deux paysans. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème à se poser. L'Inde, c'est exactement la Chine. L'Inde part avec peut-être 15 ans de retard. Mais au regard de l'humanité, c'est rien du tout. Si vous regardez des historiques sur 1000 ans, vous vous rendez bien compte que la Chine, par exemple, avant l'épouvantable 19e siècle et la guerre de l'opium qui les a mis à genoux, c'était quand même la première économie mondiale. Donc la Chine va retrouver. Bon. Et quand vous discutez bien avec les Chinois, vous vous rendez compte que la grande peur des Chinois, ce n'est pas du tout les Américains, c'est les Indiens. Et quand vous discutez bien avec les Indiens, et la chance des Sealers, on a deux très belles sociétés depuis une vingtaine d'années, donc on les connaît, on sait ce qu'ils ont dans le cœur. L'Indien, il n'a qu'une seule idée, c'est de passer devant le Chinois. Et donc, il est évident que ces deux grands peuples vont animer l'économie mondiale. Alors, pour nous, le sujet est extrêmement simple. C'est qu'il faut que nous bénéficions de cette économie. Alors, je crois qu'il faut faire confiance aux entreprises. C'est un peu le sens que j'ai dit dans mon livre. C'est qu'au fond, on a diabolisé l'entreprise, on va revenir dessus. Mais nos entreprises, et je vois, j'étais bon collègue là, à côté de moi, on vit une expérience fabuleuse de croissance. Bon, on est tous maintenant complètement en Chine, en Inde, au Brésil. On est la chance, suivant où on a beaucoup de sociétés françaises qui sont leaders dans ces pays. Donc on est vraiment complètement, on voit complètement ce qui se passe. Les Français sont très très doués. Hein. Les Français, on est un peuple, on pourra un peu discuter, hein, les démons et les génies des Français, on a d'énormes défauts, d'énormes qualités. Et on est tout à fait capable de très bien se débrouiller dans les environnements complexes de ces économies qui croissent. Et donc je crois que nos entreprises sont des moyens de tirer la société civile, la faire bénéficier de la mondialisation. Ça demandera, pour ceux qui veulent rester dans les continents occidentaux, beaucoup de flexibilité, parce qu'on va demander beaucoup plus de flexibilité aux gens si on veut que l'économie ne sombre pas. Ça, c'est notre solution. Si tout le monde se fige, ça sombrera et puis ça déclinera. Il y a des tas de continents qui ont décliné sur 500 ans. C'est pas la mort, mais c'est bon, c'est tout. C'est la honte, mais c'est pas la mort. Bon. Et puis, l'autre, il faudra, à mon avis, envoyer énormément de jeunes dans tous les pays en voie de développement. Ils sont développés, d'ailleurs. Ils sont plus développés que nous. Mais il faut, à mon avis, que tous les au moins un jeune sur deux parte. Hein. Absolument. Aller passer 10 ans, 15 ans pour aider nos entreprises à conquérir. Donc voilà, un petit peu. Donc je pense que c'est un monde de grande flexibilité, de confiance en l'avenir. Et puis, voilà. J'ai essayé de réfléchir à la raison. Il y a une raison spécificité française. Je peux quand même vous dire qu'en France, c'est pas pareil qu'ailleurs. Hein. Donc il y a vraiment une spécificité française. L'idée de dire qu'il y a une crise de l'économie partout, je crois que c'est une fausse idée. Hein. Il y a vraiment une relation étrange du français avec l'économie. Alors, au fond, je repense à ce que j'avais écrit, c'est que ça a commencé, à mon avis, assez tôt. Il y a un petit chapitre dans mon livre qui amuse beaucoup les gens, c'est Perrette et le pot au lait. On ne prête pas assez attention au fait que La Fontaine a ridiculisé un entrepreneur. Et j'ai calculé, il y a à peu près 400 millions de jeunes Français qui ont appris par cœur Perrette et le pot au lait. Et c'est, il ne faut peut-être pas donner trop d'importance à ça, mais c'est à mon avis assez important. Bon, Perrette, elle était peut-être un peu imprudente, mais c'était une entrepreneuse. Et on la ridiculise. Bon. Et ça, je pense que c'est un phénomène assez spécial. Vous ne trouvez pas ce genre de fable dans d'autres continents ou dans d'autres pays. Alors, il ne faut peut-être pas aller trop loin. Alors, deuxièmement, si vous prenez une histoire, il faut savoir que la France, bon, on le sait tous, a été quand même le siècle des Lumières, qui était un événement considérable sur le plan mondial et le plan intellectuel. C'est arrivé en France, hein. Grand débat entre Voltaire et Rousseau. Et donc, la France a effectivement une espèce d'autorité morale dans le monde entier. Quand vous visitez tous les pays, on parle de la France avec grande admiration. C'était l'époque, en gros, des Lumières. Et alors, il faut quand même savoir que, dès Louis XIV, la défiance dans l'économie de marché, elle existait déjà. Parce que tous les gens qui avaient fait un peu de business, qui avaient gagné un peu d'argent, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à la Cour du Roi. Et au fond, toutes les économies, ils les mettaient dans l'immobilier. Et puis, en gros, on allait auprès du roi et on essayait de piquer le droit de collecter l'impôt quelque part. Et donc, naturellement, le français est très vite arrivé près de l'État, etc. Et c'est insinué une idée assez fausse que les entreprises qui marchent bien sont celles qui arrivent à utiliser un petit peu mieux la prébende publique. Et donc, c'est extrêmement malsain, ça. Vous comprenez ? Parce que pour pas du tout, des affaires comme Issilor, on a investi tout notre argent depuis 20 ans, 80% en dehors d'Europe. Hein. Donc, c'est pas en cherchant à piquer l'argent public qu'on a créé nos affaires. Mais il y a quand même une notion de défiance qui est quelque part là. Et puis après, je parlais de Voltaire et Rousseau. Je pense que, vous savez, la faute à Voltaire, la faute à Rousseau, c'est quand même Rousseau qui a gagné. Parce que quand vous regardez la culture française, vous prenez la gare des Michards, vous prenez la gare des Michards du XVIe siècle, vous ouvrez ou du XVIIe, et c'est les textes de Rousseau sur la propriété, qui sont les textes les plus lus de tous nos enfants. Et Rousseau, disons-le clair, c'est quand même l'inventeur du communisme. Hein, puisque, rappelez-vous, il y a une barrière entre vous. Arrachez la barrière, les biens sont à tout le monde, la propriété a créé la guerre, etc. C'est des textes absolument splendides. Mais évidemment, il n'y a pas de plus belle démonstration du communisme. Et donc, en fait, on est un peuple dans lequel la droite est fondamentalement colbertiste, donc n'aime pas l'entreprise et dit c'est l'État qui va tout régler. Et puis la gauche fait confiance en l'entreprise pour la distribution. Et donc, au fond, les pauvres entreprises, elles ont toujours vécu avec un État. Alors, on dit toujours les libéraux sont contre l'État. Pas du tout. La maison Essilor a essayé de travailler dans des pays sans État et s'en est enfuie. Donc, personnellement, alors je pense que l'État, c'est absolument capital. Sans État, rien n'existe. Mais pour moi, l'État est régalien. Dès que l'État va au-delà des domaines régaliens, il fait des bêtises et il nous ruine. Hein, bon. Et donc, je pense, pour expliquer, il y a des choses qui viennent de très profond dans le français. C'est pour ça qu'on peut parler de spécificité française. C'est La Fontaine, c'est Colbert et c'est Rousseau. Et on a ça au fond de nous. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a ça dans nos gènes. Alors, ça n'empêche pas, après, une fois qu'on a compris, mais il ne faut pas se tromper de système. Alors, ça, c'est le très long terme. Sur le court terme, il est sûr qu'il y a eu, bon, peut-être quelques bêtises. Il y a eu des bêtises qui ont été faites par certains entrepreneurs. Bon, on n'a jamais parlé de tous ceux qui se comportent bien. Parce qu'il est sûr qu'il y a un défaut, on va dire, des médias, mais qui est aussi le défaut des lecteurs. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre aux médias. On peut très bien dire, les médias, ça devient le bouc émissaire. C'est très, très mauvais, ça. Parce que je pense que les médias, souvent, s'intéressent à ce qui marche mal. Donc, je commence le livre par une petite histoire où un grand média, finalement, ne fait pas un article sur Essilor parce que tout marche bien. Alors, je lui dis, mais écoutez, cher ami, écrivez-le. Mais il dit, mais non, ça n'intéresse personne. Et donc, après nous avoir visités, il ne fait pas d'article. Mais je dis, mais c'est peut-être intéressant de dire qu'il y a un truc qui marche bien. Ben non, ça n'intéresse personne. Voilà. Et donc, comme on ne parle que de ce qui ne va pas, on popularise l'idée que ça ne va pas. Et donc, je crois qu'il faut remettre les idées en place sur cela. Alors, c'est très crâneur de dire ça va bien, parce qu'on ne témoigne pas de soi-même. Mais si tous les gens où ça tourne à peu près restent sur eux et ne communiquent pas, on va donner une idée tordue à une conclusion. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion. Alors, mais si les journalistes font les articles qui ne parlent que de ce qui ne va pas, c'est aussi la faute du lecteur qui se jette sur ce qui ne va pas. Donc il faut qu'on ait aussi dans notre tête, il faut retourner et puis dire, il y a des trucs qui ne vont pas, bon, puis il y a aussi des trucs qui vont. Il faut rééquilibrer tous ces discours. Donc je pense qu'il y a des phénomènes court terme que je vous décris qui expliquent pourquoi ça ne va pas. Je rajouterai un dernier, là qui est un peu plus vachard, je pense, c'est sur l'État. Et puis des phénomènes long terme qui sont ce que je vous expliquais. Alors après, il faut faire attention parce que je trouve, alors moi je crois vraiment qu'il faut des États puissants, on a besoin d'États régaliens puissants, il faut sûrement réinvestir actuellement, mais il faut faire attention parce que l'État, je trouve, dans cette période de mondialisation, l'État français se présente comme protecteur, en disant, attendez-moi, je vais vous protéger contre ces mauvais trucs, quand on peut taper sur une entreprise, une grande entreprise surtout, on ne s'en penche pas, et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux, parce que si l'État veut protéger la société française contre la mondialisation, il faut qu'il réduise ses coûts. On est encore à 150 milliards de déficit, j'ai fait un petit calcul rapide, vous voyez ce bel immeuble, hein ? En gros, c'est entre 10 et 15 minutes de déficit de l'État, pour vous donner l'ordre de grandeur. Si on ne ramène pas ces déficits à zéro, quelle que soit la performance des entreprises, la société civile française va être emmenée par le gouffre. Hein ? Donc j'ai calculé, si vous voulez, pour 15 millions pour ce bel immeuble, si vous divisez 15 millions par 150 milliards, vous tombez sur 12 minutes. Donc, toutes les 12 minutes, le déficit de l'État emmène ce bel immeuble. Si on ne revient pas à l'excédent, toute la société civile française va être emmenée. Voilà. Donc, je ne parlerai plus du sujet, mais je pense aussi que pour que ça marche bien, c'est un effort de tout le monde. Les entreprises peuvent très bien réussir. Et disons, celles qui ont pu, comme Essilor et beaucoup d'autres dans la salle, conquérir le monde, montrent que les Français sont tout à fait doués. Il faut aussi que, du côté de la sphère publique, on passe par un re-engineering extrêmement important. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas tout seul.
Alain Mérieux, à la tête d'une entreprise, véritable aventure familiale qui a commencé il y a plus d'un siècle, donne son avis sur l'évolution du capitalisme.
Ce qui m'a beaucoup frappé dans ma vie, c'est d'avoir pratiquement vu ce que j'appelle pour moi la chute du mur de Berlin. Où là, j'ai vraiment vu que l'équilibre mondial qui était Moscou-Washington s'est effondré et qu'il y a eu une grande puissance et qu'à l'intérieur de cette grande puissance, qui m'a formé et que j'aime, la plus mauvaise partie, c'est la Wall Street, a pris le pouvoir. Et que l'économie mondiale, qui était dans les mains de capitalisme entrepreneurial, est passée de plus en plus dans des mains d'un capitalisme financier spéculatif. Et ça a été pour moi le grand choc que j'ai vécu. Et je vois les États-Unis, les gens avec qui j'ai travaillé sont devenus beaucoup plus fragilisés, le management, parce que toujours plus, pas de croissance, mais la ligne en bas à droite. Et je lisais hier, parce que mon TGV avait comme d'habitude beaucoup de retard à cause de la neige parisienne, et je lisais un article, on ne peut pas être pour le capitalisme. Quand j'écoute le nouveau, comme le Beaujolais, Jean-Pierre Jouyet qui parle du trading algorithmique, les dark pools, le high-speed trading, le short-selling et le flash order, on comprend les jeunes, hein, et même les plus vieux. Je dirais, on se sent dans un monde complètement virtuel, où on est au millième de seconde pour faire des profits, bon, et on a des ordinateurs qui sont programmés pour. Là, franchement, on ne pouvait pas demander à aucune personne normalement constituée de trouver que c'est passionnant. Vous n'allez pas faire vibrer les foules, et on ne passera pas le pont d'Arcole avec ça. Hein. Donc, si vous voulez, je reviens pour vous dire que je crois qu'on est allé beaucoup trop loin dans cette forme de financement, de financier qui devient spéculatif et qui est rejeté par tout le monde, qui fait la joie de Mélenchon. Et moi, j'ai eu un dialogue avec Axel Kahn. Il y avait au milieu un commissaire aux comptes. Il est parti en miettes, le commissaire aux comptes, parce qu'on était assez d'accord avec Axel Kahn sur le fond. Alors, il disait légal. Il y a des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas légitimes. Il y a des systèmes qui sont très protégés au point de vue juridique, mais qui sont moralement illégitime. Donc moi je prêche un capitalisme entrepreneurial qui associe, comme vous l'avez très bien dit, le personnel au capital de la société, qui a une vision à long terme et qui a envie de se battre. Parce que je crois que vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, je crois qu'il y a deux phénomènes fondamentaux aujourd'hui dans le monde. Toute mon activité est dans la santé publique, vaccins et diagnostics. Les pays qui gagnent sont les pays qui ont une démographie qui galope. Deuxièmement, ceux qui ont la niaque. Ils ont la niaque parce que vous l'avez très bien dit, ils ont faim. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis un des rares et très pro-chinois en France. Et je les connais depuis 32 ans. Et ils sont sortis des famines. Et quand on sort de la famine, on n'a pas le même aspect que. Et notre système et nos fameux droits de l'homme, ils vous le disent toujours, il faut d'abord manger, éduquer et soigner. Après, on parlera du reste. Bon, et on est aujourd'hui dans un monde qui se cherche. Et que la globalisation, elle est à la fois, moi, très enthousiasmante, et j'ai pris le parti de l'enthousiasme, mais elle est également excessivement, pour les plus faibles, très dure à vivre. Très dure à vivre, et je suis très frappé de voir aujourd'hui une société où les gens, on n'a jamais tant parlé de communication, et les gens se communiquent si peu, parlent si peu. C'est quand même, pour moi, qui suis un peu d'origine savoyarde, je me rappelle toujours mes grands-parents maternels, où il y avait toujours la table ouverte pour quelqu'un. Et que je vois aujourd'hui dans la rue des gens qui peuvent crever devant vous, personne ne s'arrête. C'est quand même, dans une vie d'homme, on est interpellé. Je ne suis pas du tout parfait, loin de là, mais il y a des choses qui me choquent. Donc je considère que si l'on ne réagit pas assez fortement, un certain nombre de personnes, contre cette tendance spéculative financière, si l'on ne développe pas un capitalisme qui a un visage humain, tout en étant très international, très professionnel, je pense que nous risquons d'avoir des rejets de société. Donc il faut beaucoup se méfier de la peur. Les gens sont inquiets. C'est ce qui me frappe le plus autour de moi. Comme je passe la main, je vais dans les labos, je discute avec les gens, les syndicats et tout, etc. Les gens ont peur. Les gens ont peur, sont inquiets, parce qu'ils ne voient justement, et tout est pour montrer ce qui ne va pas, ou les excès, et ce qui va bien, on n'en parle pas. Donc, conclusion, et comme le français est toujours un italien triste, hein, c'est-à-dire qu'il voit toujours le verre à moitié vide et jamais à moitié plein, ça donne cette résistante. En plus, quand vous êtes patron à Lyon, Il n'est jamais de bon ton de dire, comme M. Fontanet, qu'il a une croissance. Parce qu'on dit, cette année, elle était correcte, mais l'année prochaine. Et si vous faites le contraire, il vous flingue, le système vous flingue. Donc on n'a pas non plus un environnement qui pousse à la joie de vivre.
Arnaud Moreau, directeur général d'Ashoka France, définit l'entrepreneuriat social.
L'entrepreneuriat social est un mouvement naissant, même si en France et en Europe, l'économie sociale est installée depuis très longtemps. Alors on a des chiffres, a priori, sur l'économie sociale qui consistent à dire que c'est à peu près 10% de l'ensemble de l'économie, c'est à peu près 2 millions d'emplois, et ça varie à plus ou moins 2%, mais c'est à peu près les chiffres qu'on donne. Alors ces chiffres-là, ils sont intéressants, et en même temps, ils sont pour moi parfaitement non révélateurs de la taille de ce mouvement-là, et surtout de son impact. Pourquoi c'est pas révélateur? Parce que quand vous parlez d'économie sociale et que vous dites qu'il y a 10% de l'économie, vous mettez dedans le Crédit Agricole et un certain nombre d'autres grandes organisations mutualistes ou coopératives qui n'ont plus vraiment grand-chose à voir avec ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui l'économie sociale ou l'entrepreneuriat social. Alors l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose d'un peu plus récent, ça fait une trentaine d'années que ça existe, et c'est quelque chose qui vise à, d'une certaine façon, à réconcilier le social et l'entreprise. Pourquoi le réconcilier? Parce que pendant très très longtemps, c'était des mondes qui ne se parlaient pas, c'était vraiment des mondes en silo. Et l'entrepreneuriat social, c'est avant tout, finalement, prendre une initiative au service de la résolution d'un problème. C'est véritablement, Xavier Fontanet parlait de Schumpeter tout à l'heure, l'entrepreneur au sens finalement de la destruction créatrice, de la capacité à recréer finalement, à redesigner un environnement et à apporter une solution qui soit parfaitement efficace et qui permette de résoudre un problème de société, que ce soit de l'éducation, la santé ou de l'environnement. Je crois qu'on aura l'occasion avec Trissalec tout à l'heure d'avoir une vision concrète d'une entreprise sociale qui a un impact très intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là est un mouvement croissant. C'est un mouvement croissant, pourquoi? Parce que je crois qu'il fait la synthèse. Et on voyait ces jeunes tout à l'heure, et dans le journal, il y avait aussi un certain nombre de termes qui étaient repris, de l'aspiration de ces jeunes, finalement, à un modèle d'entreprise qui soit peut-être plus vertueux. Et l'entrepreneuriat social propose aujourd'hui une voie, c'est pas la seule, mais propose une voie qui consiste à dire... On peut être un entrepreneur, c'est-à-dire prendre des risques, être innovant, développer des organisations qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes et avoir un impact sociétal majeur. Alors cet impact, il reste à le quantifier. On commence à avoir un certain nombre de chiffres. On est capable de dire, par exemple, que dans le champ des entreprises d'insertion, lorsque l'État investit 1 euro, ça permet de dégager 2,60 euros, 3 euros pour l'État en termes de taxes diverses et variées. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de réfléchir en termes de ce que ça permet d'économiser à la collectivité et qui est extrêmement frappant. Je vous donne un exemple d'un entrepreneur social qu'on soutient depuis 4 ans maintenant, qui est une organisation qui s'appelle Ciel Bleu. C'est une association qui a été portée par deux jeunes profs de gym qui, au sortir de leurs études, décident non pas d'aller enseigner à l'école, mais de développer des activités de prévention santé en direction du 3e et surtout du 4e âge. Et puis ils observent que cette population, qui est une population grandissante, vous le savez, qui est une population en situation d'exclusion réelle, c'est la population la plus exclue en nombre quand on regarde, il y a à la fois une dimension sociale très forte, l'exclusion, la perte de lien social, et puis une dimension économique majeure qui est que, pour vous donner un ordre d'idée, je parle sous contrôle de professionnels de la santé, mais une fracture du col du fémur coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros à la collectivité entre le moment où les pompiers arrivent, vous remettent sur pied, vous ramènent chez vous, il s'est passé 40, 50, 60 000 euros. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se fracturent la hanche, le col du fémur chaque année. Et que tout ça est lié finalement à un problème de tonus musculaire en partie et à d'autres aspects. Ces deux profs de gym de 25 ans se disent « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des activités de prévention pour renforcer le tonus musculaire de ces personnes-là » Et ils partent avec cette idée-là, 25 ans, c'était il y a 10 ans, ils vont voir un certain nombre de professionnels, ils se font forcément retoquer parce qu'ils sont profs de gym, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas scientifiques, ils parlent de prévention dans un monde où on est quand même beaucoup dans le curatif. Et ils s'accrochent. Ils s'accrochent parce que ce sont des vrais entrepreneurs, parce qu'ils ont ça chevillé au corps et qu'ils veulent vraiment, véritablement développer leur organisation. 10 ans après, cette petite association aujourd'hui fait 300 salariés à temps plein. Elle touche 70 000 personnes par semaine et elle divise par 3 le risque de chute des personnes seniors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez là deux entrepreneurs qui ont développé une vraie boîte, qui sont extrêmement successful, qui ont fait le choix que ce soit un groupe associatif, mais c'était finalement un choix complètement personnel. C'est une organisation qui se passe complètement des subsides publics aujourd'hui. Elle est financée à 90% sur la vente de ses prestations. Et le plus intéressant, c'est qu'elle permet de diviser par 3 le coût pour la sécurité sociale, pour les mutuelles et donc pour la collectivité. Et là, on voit bien que ces modèles-là sont des modèles qui font la synthèse, finalement, de l'esprit d'entreprendre, du capitalisme aussi, qui n'est qu'un moyen, finalement, d'atteindre ses objectifs et qui permettent de montrer, peut-être, et d'ouvrir une troisième voie entre le social et l'économique.
C'est au tour d'Alain Olive, secrétaire général de l'UNSA, de faire le lien entre capitalisme et exclusion. Une étude qui le pousse à affirmer la nécessité d'un retour de la morale dans le capitalisme financier.
La crise, elle est quelque chose qui la caractérise, c'est le capitalisme financier. Enfin, c'est comme ça que les gens le sentent, le vivent. D'ailleurs, dans la question que vous avez posée, qui est très provocatrice, vous faites le lien entre le capitalisme et l'exclusion. Moi, ça m'a beaucoup intéressé au départ. Je me suis dit, bon, c'est comme si on demandait à Al Capone, si vous voulez, de surveiller les banques, qu'il est chargé de braquer, quoi, hein, qu'il y a
Madoff,
vocation pour braquer.
Ou Madoff,
hein,
ouais, qui est le roi dans sa,
ça, quoi.
Alors, dans sa prison.
Bon, au départ, mais après, je me suis dit, finalement, il y a un lien très étroit entre capitalisme financier et l'emploi. Lequel ? Ce lien, c'est que je crois que, si on veut apprendre quelque chose, enfin moi, c'est mon sentiment, il faut réintroduire de l'éthique et de la morale là où il n'y en a pas. À la limite, quel lien entre la rentabilité financière à outrance et la solidarité ? Parce que la lutte contre l'exclusion, c'est un élément de solidarité. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, je suis profondément attaché à l'économie de marché, hein. Je ne suis pas marxiste. Je pense qu'on a vécu, depuis l'effondrement du mur, je crois que quelqu'un en a parlé, sur les thèses néoconservatrices américaines, ultralibéralisme, etc., on a vécu le mythe du marché autorégulé, un peu. Comme on avait vécu le mythe de l'économie planifiée. On vit avec des mythes. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans mon rôle syndicaliste, c'est de replacer le compromis social, de replacer de la morale dans ce monde-là. Je suis profondément convaincu que ce n'est pas la mondialisation qui va s'adapter à la France, ça va être l'inverse. Reste qu'on a un modèle social, on a une culture, on a une histoire. Et ça, on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Donc la question qui nous est posée à nous, syndicalistes qui travaillons sur le social, c'est comment fait-on pour réfléchir à un nouveau modèle social, un nouveau compromis social, à l'aune de ce capitalisme-là. Et je fais la différence, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir dit M. Mérieux, moi je fais la différence entre le capitalisme industriel, la création de valeur pour l'entreprise, et un capitalisme financier, finalement, qui n'a que des justifications de rentabilité financière à court terme. Et je pense que les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, doivent être en plein désarroi, vu la pression qu'on leur met dessus. Alors, idem pour les salariés, quand même, hein. Parce qu'attendez, on est dans le même bateau, là. Hein. Les techniques de LBO qui ont été dénoncées, en bout de course, ceux qui en font les frais, quand même, sont les salariés. Hein. Nous, on a eu à gérer pendant la crise beaucoup de plans sociaux provoqués par, effectivement, ce type de techniques financières, avec des innovations financières. Et en bout de course, ce sont des salariés qui se retrouvent au chômage. Voilà la réalité. Bon. Donc, entre une vision, si vous voulez, globale du système et la réalité que nous devons vivre en tant qu'organisation syndicale, attachée à un syndicalisme réformiste, tout notre combat est de faire comprendre qu'il n'y a pas de solution jusqu'au boutiste, mais qu'en même temps, le système doit se réguler. Moi, je pense fondamentalement que l'économie de marché est le meilleur moyen pour créer des richesses. Et je crois aussi que l'économie de marché, par essence, est antisolidaire. Et qu'il faut donc des régulations à cette économie pour la rendre plus solidaire. Alors ça peut être l'intervention de l'État, pas seulement. J'ai entendu ce qu'a dit Xavier Fontané sur le mutualisme, bon, l'actionnariat salarié, etc. On retrouve là des notions qui étaient le solidarisme. Ce sont des notions qui peuvent être remises à l'ordre du jour, parce qu'elles sont porteuses de sens. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on recrée du sens, on recrée de la morale, on recrée de l'éthique. J'arrêterai là-dessus, mais vous ne pouvez pas savoir le discrédit moral qu'ont provoqué certains entrepreneurs, certains grands patrons, qui se sont comportés en prédateurs cyniques et cupides. Vous ne pouvez pas savoir le dégât que ça fait. Et malheureusement, je le dis parce que c'est toute une profession qui est entachée par ça. Donc il faut ramer pour aller contre ça, y compris nous, en tant que syndicalistes. Dernier mot, parce que je pense que moi aussi, je suis optimiste. Je crois que dans notre pays, les choses changent, y compris dans le syndicalisme. Je pense que dans notre pays, on voit petit à petit des forces syndicales réformistes se développer, beaucoup plus importantes que ce qu'on pense. Et moi, je suis frappé par ce qui s'est passé pendant la crise. Peut-être d'autres diront pas ça. Moi, je le dis. Pendant la crise, et notamment les sommets sociaux qui se sont déroulés en 2009, entre le patronat, le gouvernement et les syndicats, s'est mise en place, à mon avis, un véritable compromis social implicite de gestion de crise, à travers la gestion du temps partiel, le FISO, etc. Moi, c'est ce que... Bon, d'autres ne le diront pas, parce que le compromis, la notion de compromis dans le syndicalisme français est assez mal portée. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer.
Vous écoutez maintenant Denis Père répondre à une question primordiale. Le capitalisme responsable est-il un relais de croissance ?
Et on a vraiment cherché, nous, à savoir effectivement si le capitalisme était en train de se réinventer ou pas, et si ce phénomène de RSE était effectivement quelque chose d'un peu superficiel, un coup de communication, une façon de s'acheter un bon comportement d'un certain nombre de grands groupes, ou si c'était quelque chose de plus profond que ça. Et moi, ce qui m'a stupéfait, parce que je l'abordais avec pas mal de scepticisme, ce qui m'a stupéfait, c'est que les entreprises, les petites mais les grandes aussi, sont vraiment en train de s'engager sur la voie du RSE avec des travaux qui sont de plus en plus sérieux et de plus en plus larges. Et je pense que la raison pour laquelle elles le font, il y avait une jeune fille qui avait tout à fait raison d'ailleurs dans ces termes, qui disait qu'elles le feront que si c'est rentable. Elles le font parce que c'est rentable. Et elles le font pour pas mal de raisons. Elles le font d'abord parce que leurs clients leur demandent. L'opinion publique le demande aujourd'hui. Les consommateurs le demandent. Les clients le demandent. Moi, je suis fournisseur de SFR. SFR est très engagé sur ces sujets. SFR, dans tous les appels d'offres, demande à ce que les entreprises déclinent leur stratégie RSE. Ils organisent depuis cette année un concours parmi leurs fournisseurs et ils élisent le fournisseur qui est le plus engagé sur ces sujets. Donc il y a une espèce d'émulation qui se crée parmi les fournisseurs. Et si vous ne répondez pas au concours et si vous ne gagnez pas, ben, ce n'est pas très bien vu chez SFR.
C'est plus une obligation qu'une émulation.
Alors, il y a un aspect obligation. Il y a un aspect obligation. Mais c'est positif. Quand on est obligé, quand on se remet en question, on fait des choses, on agit sur toutes les entreprises. Donc elles sont poussées par leurs clients, par fournisseurs, elles sont poussées également par leurs employés. Les employés aujourd'hui sont demandeurs, et spécialement depuis la crise, de donner du sens à leur travail. Et sont demandeurs de ne pas avoir juste un bon job et un bon environnement de travail. Ils veulent aussi que leur employeur se comporte de façon responsable. Et ce qu'a très bien montré votre sondage, c'est que les jeunes sont spécialement demandeurs aussi, et que ça devient, vous l'avez dit, un véritable enjeu de recrutement. Hein, malgré la crise, les entreprises se battent quand même pour recruter les meilleurs talents. Et aujourd'hui, les jeunes, en particulier des grandes écoles, et ça nous a été confirmé par Pierre Tapie, par exemple, qui est le président de l'ESSEC et qui est aussi le président de la conférence des grandes écoles, qui lui, depuis 5 ans, et spécialement depuis la crise, les jeunes sont spécialement demandeurs de voir leur futur employeur s'intéresser à ces sujets et se comporter de façon responsable.
Est-ce qu'on n'en fait pas trop dans ce domaine lorsqu'on regarde ce sondage où il apparaît que les jeunes qui estiment qu'une entreprise est responsable si elle fait du développement durable, si elle respecte l'environnement, plus que si elle crée de l'emploi?
Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on ne voit pas déjà le premier bénéfice pour la société qu'est l'entreprise, qui est simplement déjà la création d'emplois, c'est sûr. Mais c'est souvent pas suffisant. Cette création d'emplois se fait au détriment de l'environnement ou se fait de façon exclusive, c'est-à-dire en ne recrutant que des chiens à pédigrée, comme disait
la création d'emplois tout à l'heure,
des chiens à pédigrée uniques et homogènes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises commencent à créer des emplois de plus en plus en recrutant tous les pédigrés et se rendent compte que c'est rentable. Alors c'est là aussi que c'est intéressant. Effectivement, beaucoup le font sous la pression de leur environnement et certaines entreprises qui sont peut-être les plus avancées, les plus pointus, les plus sophistiqués, le font maintenant avec une vraie motivation positive parce que c'est positif pour leur P&L, c'est positif pour la rentabilité de l'entreprise. Un exemple, L'Oréal a mené une étude il n'y a pas très longtemps qui a montré que quand on mettait dans une équipe, dans une usine, des hommes et des femmes, ben on avait une productivité qui était meilleure. Pourquoi ? Parce que l'insertion des femmes dans l'entreprise, c'est important, hein, c'est un vrai sujet encore aujourd'hui. Parce que les femmes voyaient des choses que les hommes ne voyaient pas. Donc là, c'est un impact direct sur le bottom line. Une entreprise, un fournisseur d'accès à Internet s'est rendu compte récemment que quand on plaçait du personnel handicapé dans une boutique, ben on avait moins d'absentéisme parce que le reste des employés s'en étaient responsabilisés. Donc là, c'est un impact aussi immédiat sur les résultats. Donc on assiste, je crois, alors c'est que le début, il ne faut pas faire preuve d'angélisme, hein, il y a encore beaucoup de problèmes, évidemment, d'exclusion et d'insertion. Mais moi, la conviction que j'ai acquise en menant cette étude, c'est que le capitalisme est en train de se réinventer actuellement tout seul, sans nécessairement que les gouvernements s'en préoccupent. Alors c'est encore mieux s'ils s'en préoccupent. C'est un dernier sujet, on va en parler si vous voulez, qui reste une préoccupation, mais est en train de se réinventer tout seul pour être plus inclusif et moins exclusif qu'il ne l'était jusqu'à présent. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Le frein principal, c'est que ceux qui sont chargés de sanctionner la performance de l'entreprise, les financiers, les actionnaires, les analystes financiers,
non, pas encore,
eux s'en contrefichent. En tout cas, s'y intéressent pas beaucoup. Il y a un phénomène qui commence à émerger. Madame Notel dira peut-être le contraire. Il y a un phénomène qui commence à émerger qui est très prometteur, qui est l'ISR, mais qui reste marginal. Et pourquoi ? Parce que les financiers aujourd'hui cherchent avant tout un rendement à très court terme et que quand on se préoccupe de ces sujets-là, on le fait avec une préoccupation à moyen terme. Et que tant qu'on ne sera pas incité à investir à plus long terme, on s'intéressera moins à ces sujets-là quand on est un financier. Mais d'une façon générale quand même, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de faire que le capitalisme est en train de se réinventer, et pas qu'en France. Hein. C'est un phénomène qu'on observe partout, et en particulier aux États-Unis où les dérapages ont été majeurs. Et donc les Américains sont intelligents. Quand ils ont vu Madoff, les subprimes, ça a quand même interpellé beaucoup de gens. Et donc ces phénomènes là-bas aussi commencent à être assez majeurs.
Nicole Nota aborde enfin la notion de RSE, une donnée nouvelle du monde économique qui prend de plus en plus d'importance.
Pour moi et pour nous, et de plus en plus quand on parle dans les milieux qui aujourd'hui se réfèrent, se spécialisent, se professionnalisent sur la responsabilité sociale ou sur l'investissement responsable, c'est l'idée que l'entreprise doit beaucoup plus qu'elle ne faisait, le faisait préalablement, qu'en tout cas ça devient un élément structurant de son activité et de sa stratégie, prendre en compte dans sa stratégie, dans ses opérations, dans ses choix, etc., des attentes des parties prenantes qui ne sont pas seulement celles de ses actionnaires. Il n'est pas question d'oublier les actionnaires, ça risque pas d'ailleurs, les actionnaires et les investisseurs, mais il s'agit aussi de se dire que les autres parties prenantes de l'entreprise, que sont les salariés, que sont les fournisseurs, les sous-traitants, que sont les pouvoirs publics, que sont, enfin bref, tous les ceux clients qui sont dans une sorte d'écosystème avec l'entreprise, ont quelque chose à voir avec la performance de l'entreprise, peut-être pas à court terme, mais comme étant un élément de performance future, de garantie de pérennité de son activité. Et si vous voulez, l'entreprise responsable, c'est celle qui va être capable de dire, voilà, à l'égard de mes fournisseurs, à l'égard de mes salariés, à l'égard de mon environnement naturel et humain, voilà les objectifs que je vais porter pour réduire les impacts négatifs que je peux produire sur ces parties prenantes en question. Et à partir de là, se déroule une série d'objectifs qui peuvent être identifiés, nommés, et sur lesquels l'entreprise se met en mouvement pour agir, pas comme quelque chose qui relève de la bonne action, pas comme quelque chose qui relève de l'exercice additionnel quand on a fait le dur du logiciel de l'activité du cœur de métier de l'entreprise, mais qui va véritablement s'inscrire comme des éléments modifiant sa recherche et développement, la nature des produits qu'elle va concevoir, bref, qui se trouve bien au cœur de son système. Alors, j'ai envie de réagir sur l'ISR, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les encours qui sont gérés sous forme dite d'investissement responsable par rapport à toute la masse d'investissements, on se dit tout ça est encore peanuts, c'est incontestablement vrai. Au demeurant, c'est là que peut-être on pourra se demander si on est dans un signaux faible à effet de levier fort à terme, c'est-à-dire si ces praticiens aujourd'hui qui disent quoi. Ces praticiens, ce sont des gens qui se disent qu'être investisseur dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi quand même se préoccuper du futur, des générations futures et de ce que sera la croissance de demain. Quand même des gens qui n'ont pas toujours le nez complètement sur le guidon comme ça. Et à ce moment-là, ils vont eux aussi se dire, et d'ailleurs c'est pas un hasard si de grands investisseurs internationaux ont signé aujourd'hui ce qu'ils appellent 6 principes de l'investissement responsable, qui consiste à dire, au nom de notre responsabilité fiduciaire, je vous demande d'entendre ce concept qui quand même est assez transgressif dans ce milieu, au nom de notre responsabilité fiduciaire, nous allons devoir de plus en plus intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à nos analyses qui précèdent nos choix d'investissement, considérant, disent-ils, que ces éléments auront à plus ou moins long terme des impacts sur la sécurité et la rentabilité de leurs placements. Donc qu'est-ce qui est intéressant derrière ces notions de RSE et de ISR? C'est qu'on est sur un autre horizon de performance et sur un autre horizon de rendement. On n'est plus sur le court terme, dans 3 mois, dans 6 mois, etc., mais on mise sur le fait que ces indicateurs sont des indicateurs de performance future, à la fois pour l'entreprise et à la fois d'ailleurs pour l'investisseur.
Après cette dernière intervention de Madame Nota, le chancelier Gabriel De Breuil a clos ce premier forum de la Fondation Croissance Responsable en insistant sur la raison d'être de ce nouveau type de fondation, chargée d'être la caisse de résonance des multiples initiatives prises dans notre pays pour favoriser une croissance mieux partagée et plus responsable. Un regard neuf sur notre modèle économique et social qui participe activement au débat sur l'avenir.